Bonjour, chers amis. Nous continuons à explorer les questions que la laïcité nous pose aujourd'hui. Vous l'avez compris avec les réflexions précédentes, l'Église catholique a longuement travaillé la théologie de la laïcité pour en arriver à une vision équilibrée. Et pour elle, il y a une vraie distinction entre le régime de laïcité, tel qu'il est pratiqué dans l'État français, et le laïcisme, considéré comme une idéologie de combat. Or, après l'avènement de la laïcité et sa consécration dans la constitution de notre pays, on aurait pu penser que ce laïcisme se fût assagi. Il n'en est rien. D'où l'avertissement des évêques de France dans leur déclaration du 16 juin 2005. Nous nous inquiétons d'assister parfois, en certains lieux, à la résurgence d'attitudes et de prises de position marqué par un laïcisme qu'on croyait dépassé. Ce constat est toujours vrai aujourd'hui, avec même parfois des résurgences violentes, explicites ou plus masquées. Cela a été particulièrement vrai lors du centenaire de la loi de 1905. Ainsi, aujourd'hui encore, on trouve des déclarations ou des écrits assez surprenants sur les prétendues entorses à notre laïcité, tandis que se pose maintenant le problème d'une reconnaissance publique de l'incroyance. Deux de ces entorses sont régulièrement dénoncées. La question de l'Alsace-Moselle, par exemple, en vue de l'élection présidentielle de 2002, une lettre ouverte aux candidats contenait les propos suivants au sujet du maintien du concordat en Alsace-Moselle. Partisan de l'absolue liberté de conscience, garantie par la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, nous considérons que le statut clérical d'exception et le régime d'exception scolaire d'Alsace-Moselle sont des violations de la laïcité républicaine. Deuxième entorse, les entorses financières. Voici là aussi un exemple de cette posture. Dans les débats parlementaires préalables au vote de la loi de finances pour 2002, René Dosière, un député socialiste, donne l'avis suivant en dénonçant les retraites octroyées aux religieux. Alors qu'on nous explique que les retraites sont un problème et qu'il faudra que les salariés cotisent toujours davantage et toujours plus longtemps, les personnels cultuels pourront toucher sous certaines conditions la totalité de leur pension s'ils ont exercé pendant 10 ans. Le moins qu'on puisse dire est que le financement public des religions ne souffre pas de modération salariale et budgétaire. C'est un véritable pillage des fonds publics pour maintenir, contre vents et marées, le cléricalisme institutionnel dans notre pays. Ce député oubliait sans doute que, comme tout citoyen, les personnels cultuels, c'est-à-dire les prêtres et les religieux, ne sont pas payés par l'État, qu'ils cotisent sur leur vie, sur leur maigre traitement, pour avoir une faible pension, une fois obtenues toutes leurs annuités, et ce, bien souvent après 62 ans, compte tenu de la durée de leurs études ecclésiastiques. Cependant, la première question qui est posée ici à notre laïcité est la suivante. L'État français respecte-t-il le bien commun en continuant son œuvre de partenariat et aussi de mécénat avec les associations à caractère religieux? La réponse du laïcisme est bien évidemment non, en appliquant strictement le vieil adage de l'ultralibéralisme, à la politique la sphère publique et à la conscience individuelle la sphère privée, et à école publique fonds publics et à école privée fonds privés. On s'aperçoit alors que ce ne sont pas les différents gouvernements français, dont j'ai rappelé l'attitude envers les religions, qui veulent limiter, voire interdire l'intervention des églises dans le débat public et dans la vie de la société. C'est ce laïcisme porté par différents groupes idéologiques et qui à tout moment peut et veut encore faire pression sur les gouvernements pour en infléchir les décisions, avec la possibilité bien sûr que des personnes adhérant à ce laïcisme fassent partie de ces gouvernements. Mais sous-jacente à cette première interrogation, il y en a une autre, plus profonde. Peut-il y avoir un statut public de l'incroyance? Dans un petit livre paru en 2005, Henri Penarwyse, qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, et qui a été membre de la commission Stasi, écrit par exemple « L'organisation politique des sociétés humaines peut-elle se passer de la référence à une puissance transcendante, c'est-à-dire extérieure et supérieure aux hommes, appelée Dieu ?» L'émancipation laïque vis-à-vis du pouvoir politique répond oui à cette question. Elle ne consiste pas pour autant à détruire la religion comme foi ou démarche personnelle. Elle en redéfinit le sens et le statut dans la société en en faisant une affaire privée qui ne concerne que ceux et celles qui adoptent librement une croyance religieuse donnée. Premier point donc pour ce penseur, il se peut que des religions existent, mais cela doit rester une affaire privée. Henri Penard-Huys écrit ensuite « La distinction de la sphère privée, libérée par la laïcité de toute tutelle illégitime, et de la sphère publique est fondamentale. Dire que la religion doit entrer dans le domaine de liberté qui se développe au sein de la sphère privée et ne plus exercer d'emprise sur la sphère publique, ce n'est pas en nier la dimension collective, mais refuser que celle-ci serve de prétexte au maintien de privilèges. Une sphère publique qui traiterait de façon discriminatoire les différentes options spirituelles ou s'aliénerait leur concurrence, ne pourrait servir de référence commune à tous. Deuxième point donc, si la religion déborde sur la sphère publique, ce serait pour y obtenir des privilèges, soit d'existence, soit financiers, ce qui nous ramène au problème précédemment soulevé. Henri Penard-Huys enfin écrit « Les convictions spirituelles des athées et des agnostiques, en progression, ne peuvent être définies de façon simplement négative par l'incroyance, puisqu'elles s'assortissent, elles aussi, d'adhésions à des valeurs positives, comme celle de l'humanisme. » Et la dernière phrase de son livre est significative. « On ne peut concevoir la laïcité à partir de la seule liberté de conscience. L'égalité des croyants, des athées et des agnostiques en est tout aussi constitutive. Disons que la laïcité accomplie n'existe qu'en proportion du respect simultané de ces deux principes, avec pour corollaire la dévolution des institutions publiques au seul bien commun, par-delà les différences. » Les affirmations faites ici prônent donc que l'athéisme est une forme de croyance et sont d'une certaine manière la remise en cause de la liberté absolue de conscience. Or, celle-ci est pour la foi chrétienne absolument fondamentale. Pour le laïcisme, ce n'est pas cette liberté de conscience qui doit fonder une saine laïcité, mais l'égalité de tous, ce qui pousse à mettre sur le même pied d'égalité les croyances avec l'incroyance. Est-ce bien acceptable? Il est clair que ce n'est pas le propos du Concile Vatican II dans sa déclaration Dignitatis Humanae du 7 décembre 1965. Car une autre question théologique se pose alors, le refus de Dieu sert-il en fin de compte la vraie liberté de l'homme? N'y a-t-il pas ici confusion entre liberté et autonomie mortifère? Pour le chrétien, la vraie liberté ne se limite pas au seul libre arbitre ou au choix entre le bien et le mal. La vraie liberté, c'est n'être jamais empêché de choisir le bien. Et l'obstacle principal à ce choix, c'est le mal. Si Dieu est le bien absolu, le choisir et le suivre est ce qui fait pleinement éclore en nous la liberté. Le refuser est au contraire une aliénation. Pour le chrétien, il n'est donc pas possible de mettre sur le même plan croyance et incroyance. La prochaine fois, nous continuerons à voir toutes les questions actuelles avec en particulier les crédits accordés à l'enseignement privé.